Bonjour à toutes et tous. Bonjour Dominique Bourg. Bienvenue, merci d'être là. Le thème de la rencontre aujourd'hui est « Planète, état des lieux et perspectives. Allons-nous mourir de chaud ?» Dominique Bourg, vous êtes philosophe, vous êtes franco-suisse de nationalité, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne, vous êtes spécialiste, expert en questions environnementales, vous êtes auteur de dizaines de livres et d'ouvrages passionnants qui seront pour certains disponibles après cette rencontre. Et vous ne vous définissez pas comme un militant, malgré Urgence écologie en 2019, mais comme porteur actif, et je parle sous votre contrôle, porteur actif d'un engagement moral éclairé par un constat scientifique renseigné, lourd et assumé. Votre champ d'expertise est si vaste que je vous propose de structurer cet échange, notamment parce qu'il passera ensuite sur Neptune FM et que ça aidera à la compréhension par la suite. Je vous propose de structurer cet échange en trois moments, avec des questions à la fin, dans la dernière demi-heure. Donc, le premier moment serait, pourrez-vous, s'il vous plaît, nous clarifier le lexique lié aux questions de l'écologie et de l'environnement qui nous perd parfois ? Le deuxième moment, l'état des lieux, où en est-on, pourquoi en est-on là et comment y remédier. Et le troisième moment, quelle est la portée réelle de l'action individuelle, familiale, collective, celle des industries éclairées au vert, si on peut dire, car on a souvent l'impression de ne pas compter dans la balance décisionnaire, de devoir décider entre le bien et le mal, comme si humains, vivants, économie, finances devaient systématiquement s'opposer. Alors le premier moment, le lexique. Alors on parle d'écologie, d'environnement, de climat, de bonnes pratiques, de pesticides, de recyclage, de militants, d'activistes, de legs au futur, de greenwashing. C'est un peu le Far West des mots et des concepts. Et pour faire un petit clin d'œil au passé, on semble très loin de René Dumont avec l'écologie qui aujourd'hui, l'écolo paraît presque un peu romantique. Et on en est très loin. Donc le lexique, s'il vous plaît, Dominique Bourg.
Merci Maya. Alors, merci à vous toutes et à vous tous d'être ici présents. Je suis désolé parce que c'est pour entendre de très mauvaises nouvelles. J'espère que la digestion est assez distante, parce que les viscères risquent de se contracter. Et effectivement, là, vous allez voir, la réalité n'est pas folichonne, mais quand même, on essaiera de finir sur une note plus positive. Moi, j'aimerais revenir sur ce mot de militant. Effectivement, si vous voulez, pour s'alarmer des questions environnementales, il suffit simplement d'être raisonnable, première qualité, et deuxième qualité, de s'informer. Si vous êtes raisonnable et si vous informez, vous voyez très bien qu'il y a des records de toutes sortes qui sont sans cesse battus, notamment de chaleur, mais évidemment pas seulement, et on aura l'occasion d'y revenir. Donc ce n'est pas du tout la peine d'être militant pour se dire qu'il y a un très gros problème. En fait, l'écologie, on va le voir, c'est à la fois une question de science, mais c'est aussi une question de valeur, c'est aussi une question de paradigme. Et il y a des sujets pour lesquels, effectivement, on peut être militant. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est vegan, par exemple. Hein, vegan, c'est un choix moral. C'est choisir une morale, c'est critiquer la morale anthropocentrée, c'est se lancer, en général, parce qu'il peut y avoir des exceptions sur le plan des fondements philosophiques, mais c'est être ce qu'on appelle pathocentré. C'est-à-dire penser que, si vous voulez, il n'y a pas de différence entre la souffrance d'un animal et la souffrance d'un être humain. Et que donc, vos obligations morales, celles que vous concevez pour les autres êtres humains, vous devez avoir les mêmes pour les animaux. En tout cas, à partir du moment où ils sont capables de ressentir la souffrance. Ça, c'est un choix moral. Et ça n'a rien à voir avec l'écologie. Beaucoup de gens écolos sont véganes, je suis désolé, ils veulent être véganes, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est même à peu près contradictoire sur un certain nombre de sujets. L'écologie vous dit qu'il faut manger moins de viande, pas pour une question de souffrance, pour des questions justement, si vous voulez, d'équilibre ou de déséquilibre au sein du système Terre. C'est quelque chose qui est tout à fait différent. Donc là, effectivement, vous allez être militant parce que vous allez opter pour un choix moral contre d'autres choix moraux qui ne sont pas moins légitimes, qui sont tout aussi acceptables. Donc là, vous êtes militant. Si vous inquiétez du changement climatique, vous êtes simplement un animal raisonnable. Pas besoin d'être militant. Donc c'est pour ça que j'étais gêné, je suis désolé, gêné par ce terme, parce que je ne me qualifie pas comme ça. Alors après, parfois, on peut être en colère, occuper une banque. Bon, alors là, vous allez dire, c'est peut-être militant, activiste, mais ça, c'est la colère. Ce n'est pas un sentiment nécessaire. Alors, voilà, pour le mot militant. Maintenant, on peut peut-être essayer d'éclairer les mots de l'écologie, parce que ça, c'est...
Je vous laisse les choisir.
Voilà, c'est vraiment important. Alors, l'écologie, c'est d'abord une science. Hein, le premier, non pas à l'inventer, mais à la baptiser, c'est Ernst Haeckel, donc un Allemand, dans un livre publié en 1866, qui s'appelait Die generelle Morphologie, je crois. Et il définit très bien l'écologie comme la science qui a pour objet les relations que les êtres vivants entretiennent entre eux-mêmes et avec leur milieu. C'est toujours notre définition. Donc ça, c'est une science. Et dans le genre positiviste, assez bizarre, hein, avec elle, il se posait vraiment là. Donc ça n'a rien à voir, si vous voulez, comment dire, alors justement, avec un sujet politique en soi. C'est vraiment une science. Après, vous avez un troisième sens, c'est plutôt ce qu'on appelle la pensée écologique. Donc ça, c'est une réflexion qui va naître vers la fin du premier tiers du 19e siècle, on va commencer à s'interroger sur la relation que les êtres humains entretiennent avec leur milieu, avec la nature. Les Américains vont s'apercevoir presque du jour au lendemain qu'ils ont pratiquement déforesté la totalité de leur continent. Et ça va être pour eux un véritable traumatisme. Et c'est ce traumatisme-là qui va les amener à réfléchir à leur relation à leur milieu, à la nature. Et donc, en fait, cette pensée écologique qui va naître à partir de là, elle va se caractériser par deux traits qui lui sont spécifiques. Et ce qui fait que l'écologie, en ce sens-là, en sens de la pensée écologique, c'est un courant de pensée comme le conservatisme, le socialisme, le féminisme, que sais-je, hein, avec bon, des critères qui lui sont propres, même s'il peut chevaucher d'autres critères. Et là, les deux critères, c'est une critique de l'anthropocentrisme. Le fait d'imaginer que nous sommes au cœur de la vie et que tout a été fait pour nous. J'espère que personne dans cette digne assemblée ne nourrit encore ce genre de naïveté. Alors, on va critiquer ça, et c'était une évidence à l'époque. Alors, souvent, d'ailleurs, appuyé sur une très mauvaise lecture de la Bible, hein, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, ça doit être Genèse 31, ou 1:30 plutôt, chapitre 1, verset 30, où Dieu, après avoir créé le monde, hein, on est là le soir du cinquième jour, il est vraiment très content de lui. Il s'assied. Avant même qu'on ait fait des sièges, mais ne vous inquiétez pas, il s'assied et il dit, voilà, tout ça est très bon. Et donc, on est avant la création de l'homme. Donc, ce n'est pas du tout anthropocentré, d'ailleurs. Hein. Je ferme la parenthèse. Donc ça, le premier trait, c'est la critique de l'anthropocentrisme. Et le deuxième trait, et vous allez voir, il est encore très important aujourd'hui, même dans ce qu'on appelle le mouvement social et politique écologique, c'est le fait qu'on ne pense pas que les techniques sont capables de résoudre tous les problèmes qu'elles occasionnent. Elles auraient plutôt tendance à les déplacer qu'à les résoudre. Donc ça, c'est vraiment les deux traits de la pensée écologique. Puis vous avez le troisième sens, l'écologisme. Hein, là où ça n'est plutôt... vous avez les protestations des peintres de l'école de Barbizon dans les années 1850-1860. Mais en fait, non, l'écologisme, il va vraiment naître après-guerre. En fait, il va naître dans les années 60 et il va s'amplifier au début des années 70. Donc là, c'est un mouvement social et qui va déboucher sur un plan politique. Vous avez aujourd'hui des partis politiques qui sont écologiques. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces mots. Parce que si vous rabattez l'écologie sur les écologistes, j'ai évidemment rien contre les écologistes, hein, mais si vous rabattez, non, on le verra un moment dans la discussion, c'est très important que les questions écologiques, elles transcendent certains aspects politiques, on y reviendra. Puis enfin, environnement, vous avez milieu, vous avez nature, vous avez différents termes. Le terme environnement, c'est le plus anthropocentrique de tous. Hein. L'environnement, c'est ce qui nous environne, c'est ce qui nous entoure. Donc je me prends comme point de mire, en toute modestie, et j'organise tout autour de moi. Bon, voilà, c'est assez naïf. Et d'ailleurs, par exemple, si on a l'économie de l'environnement, alors l'économie de l'environnement, c'est ce qui se déploie aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, en fait, on a toute licence pour détruire toutes les ressources. Et puis, on a l'économie écologique. Au contraire, on va se distancier dans un premier temps de l'étude des flux monétaires pour s'orienter vers l'étude des flux de matière. Et donc là, on va dire écologie et pas environnement, justement parce que ça ne se veut plus du tout anthropocentrique. Donc voilà, il faut faire très attention aux différents mots de l'écologie. Si on emploie mal les mots sur un sujet aussi complexe, alors c'est vraiment extrêmement mal parti.
Alors, merci. Peut-être on passe au deuxième moment, comme ça on fera converger tous ces moments vers des questions et des réponses et donner de la place à cela aussi. Le deuxième moment, c'est l'état des lieux. On parle de diagnostic comme pour les maladies. Les prévisions 2050, 2100, en fait, c'est maintenant. Alors est-ce la faute aux 30 glorieuses, 45-75, le boost, l'emballement d'une croissance consumériste vers l'infini? Un mot que vous employez, que vous définissez souvent, c'est-à-dire le hors-limite du périmètre de l'humain. Et beaucoup de sujets sont, à ce titre, un peu sur haut-parleur. On parle, et je vais juste les égrener, et puis vous les choisirez, la transition énergétique, la sécurité alimentaire, le législatif vert en manque, comme vous le dites, les pandémies, l'éthique et la morale, et l'absence de responsabilité, ça se renvoie la balle tout le temps. Donc là aussi, un autre Far West de concept et pour lequel on serait très demandeur de votre éclairage.
Merci. Alors là, simplement, on va faire un petit diagnostic. Je vais essayer de ne pas être trop long, l'état de la situation. Déjà, première chose, vous entendez dire parfois, pour ne prendre que le dérèglement climatique, qui n'est qu'un aspect de toutes les difficultés écologiques que nous connaissons aujourd'hui, et parfois on dit « ça s'emballe ». Non, ça ne s'emballe pas. En fait, en termes, si vous voulez, de température moyenne sur Terre, on ne s'emballe pas. On l'a déterminé il y a longtemps, déjà, je ne sais plus si c'est les années 80, 90, mais sur laquelle les chercheurs sont entendus, c'est une forme de sensibilité du système climatique au fait que l'on intensifie la concentration de différents gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le premier, c'est la vapeur d'eau. Mais là, on n'a qu'un pouvoir indirect. L'autre évident, c'est le CO2. Vous avez le méthane, vous avez le protoxyde d'azote. Ça, c'est les trois gaz principaux. Donc, on a complètement changé la composition chimique de l'atmosphère. Et le problème, c'était de savoir, on mesure ça en partie par million. C'est-à-dire quand on vous dit qu'il y a 426 ppm de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, là, au-dessus de nos têtes, on veut dire que si on prend un volume d'un million de molécules d'air, il y a 426 molécules de dioxyde de carbone. Vous aviez entre 280 et 300 dans l'ère pré-industrielle, en tout cas les millénaires qui nous ont précédés. Donc on a changé la composition chimique de l'atmosphère et le problème c'était de savoir le ratio qu'il y a entre le changement de cette concentration des gaz à effet de serre de l'atmosphère et la température moyenne. On mesure toujours la température à 2 mètres du sol dans un endroit abrité. Et se sont ajoutées aussi des mesures satellitaires. Alors c'est devenu très très important qui sont même beaucoup plus précise. Donc si je regarde en termes de température moyenne, on pensait qu'à 430 ppm, on aurait atteint sur 10 ans, autrefois on disait sur 30, maintenant on prend une moyenne sur 10 ans, tellement ça va vite, sur 10 ans, un réchauffement de la température à la surface de la Terre d'un 5 degré par rapport à la période pré-industrielle, grosso modo 1800-1850. D'accord ? À peu de choses près, on en est là. L'an dernier, alors il y avait deux mesures, il y a une mesure où la température est un peu plus élevée, mais si on prend Copernicus, la moyenne de la température sur Terre durant l'année 2023, c'était 1,48, donc à 2 centièmes des 1,5. Et là, si je prends à partir de juillet et les 11 mois qui précèdent, on est même à 1,6. Effectivement, ça se réchauffe, mais si ça se trouve, dans 2 ou 3 ans, on aura une moyenne à 1,4, 1,45, etc. Et puis petit à petit, sur 10 ans, on sera au minimum à 1,5. On aura sans doute déjà des années à 2 degrés, dès probablement la décennie de 2040. En revanche, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, c'est la violence des expressions de ce changement de la composition chimique de l'atmosphère. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit aussi violent, aussi fort. Pour le vérifier, c'est tout simple. Vous allez chercher deux livres d'un journaliste scientifique australien, mais qui travaille très bien, qui s'appelle Mark Linnaeus. Le premier doit dater du début des années 2000. Et je ne sais plus comment ça devait s'appeler, 6 degrés, je crois, le titre. Et il est allé chercher dans la littérature scientifique qu'est-ce qu'on trouvait, quels sont les événements. Alors, ces événements, bah, vous avez évidemment les vagues de chaleur. Hein. On verra tout à l'heure qu'il faut distinguer chaleur sèche et chaleur humide. Vous avez les inondations hors normes, vous avez les feux jusqu'aux méga-feux. Alors là, hyper hors normes. Vous avez les cyclones de catégorie 5, vous avez les tornades, vous avez les gros grêlons, vous avez l'irrégularité de l'entrée dans les saisons, etc. Ça, ce sont toutes les expressions du dérèglement climatique. Alors, ce sont les principales, et puis elles-mêmes ont des conséquences beaucoup plus détaillées, et on va y revenir. Alors, et là, ce qu'il nous racontait, enfin ce qu'il trouvait dans la littérature scientifique pour 2 degrés, c'est exactement ce qu'on a à peu de choses près aujourd'hui à 1,5 degré. Donc effectivement, l'expression du dérèglement climatique, les expressions sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus violentes, ont plus d'incidence sur la vie sur Terre qu'on ne le pensait il y a quelques décennies. Et pour vous montrer à quel point on a vraiment, mais totalement déjà changé de système climatique, si vous voulez. Alors, les premiers signaux détectés par les chercheurs, là on a vu le signal sortir du bruit ambiant, c'est des analyses du milieu des années 80, le Max Planck Institute, etc. Mais là, non, depuis 2018, tout le monde peut constater qu'on a basculé, qu'on n'est plus du tout dans le même climat. Prenez simplement la première décennie, de 2000-2010. Vous avez eu 3 grandes canicules. Celle de 2003, dont tout le monde se souvient, ça c'est la partie ouest de l'Europe. En Australie, hémisphère sud, 2007. Et en Russie, 2010. Là, on a eu des records, etc. C'était très sensible, très visible. Maintenant, depuis 2018, les canicules s'enchaînent. Sur Terre, depuis le mois de mai, vous avez sans cesse des records de température qui sont battus localement. Et alors, on a eu la chance, nous, dans cette partie qu'on connaît de l'Europe, c'est un peu moins vrai maintenant, ces jours, ici sur l'île, on n'a pas ce problème, mais en dehors de la partie ouest de l'Europe, il y a eu des vagues de chaleur partout. Alors évidemment, les 40 degrés aujourd'hui, c'est quasi systématique, et même chez nous, mais les 50 degrés, de l'extrême est, voyant de la Sibérie jusqu'à l'Australie, désormais des températures proches, égales et même supérieures, parfois jusqu'à 4 degrés à 50 degrés, c'est récurrent. Et donc en fait, si vous voulez, l'enjeu l'enjeu principal et déterminant de toutes ces questions écologiques, c'est une altération de l'habitabilité de la Terre, et plus encore, c'est même une réduction physique. Et ça, je vais venir après, mais j'aurais déjà vous parler de chaleur humide. Donc là, c'est vraiment un enjeu énorme. La Terre devient plus hostile à la vie, vie de l'espèce humaine, vie des autres espèces. Et une partie vraiment, mais non négligeable, et avec la chaleur humide, c'est encore beaucoup plus grand, de la Terre, dans les décennies qui viennent, va devenir par endroits très difficilement habitable, et à d'autres endroits, mais c'est très large, hein, c'est pas du tout ponctuel, vraiment inhabitable. En tout cas, incompatible avec un habitat humain, indépendant et permanent. On peut bien l'habiter, vous allez me dire, au pôle sud. Oui, ok, les amis, d'accord, mais avec quel coût énergétique? Et si vous n'importez pas tout, évidemment, vous ne pourriez pas vivre au pôle sud. Donc en fait, les sciences et les techniques, en termes d'habitat permanent, ça c'est un truc très important à bien comprendre, elles n'ont rien changé. Si vous regardez la répartition de la population humaine, je vais y revenir tout à l'heure sur Terre, en 2000, maintenant... Alors maintenant, ça change déjà un petit peu, mais disons, en 2000, 1800, 1700, 1400, 800, c'était à peu près pareil. Enfin, les ordres de grandeur étaient à peu près les mêmes. Sauf qu'évidemment, la population était moins nombreuse. Mais en termes de répartition de la population, on avait à peu près les mêmes choses. Juste peut-être, avant que je parle de chaleur humide, ça c'est important de le dire.
Bah allez-y, parce qu'effectivement après on pourra faire converger un peu tous les thèmes. Parce que
d'accord,
là, c'est...
d'accord. Alors voilà, je vous parlais de la chaleur sèche, c'est assez simple à comprendre. Hein. Les plantes cessent toute leur photosynthèse entre 40 et 45 degrés. Et les céréales, quand on monte les 30 degrés, elles sont comme nous, elles n'aiment pas la chaleur. Elles commencent à fermer leur stomate bien avant les 40 degrés. Mais en tout cas, entre 40 et 45, voilà. Et si vous regardez maintenant les jours à 40, les jours à 45, ça explose. Donc, ce n'est pas très difficile de comprendre, sans parler des autres problèmes, sans parler des inondations, sans parler des... Quand vous malmenez des écosystèmes, en général, les seules populations qui se multiplient, ce sont les populations hautement sympathiques qu'on appelle injustement nuisibles. Mais en tout cas, par rapport à nous, ils sont très nuisibles. Et ce sont les ravageurs des cultures. Donc voilà, ne serait-ce que ces deux raisons-là, pour vous montrer que une des incidences les plus fortes et qui va vraiment contraindre l'humanité de cette espèce d'altération déjà de l'habitabilité de cette planète, c'est que nos capacités de production alimentaire vont s'affaiblir. Elles vont même s'affaisser. Et ce n'est pas un phénomène à venir. C'est un phénomène en cours. Et évidemment, plus, si vous voulez, plus ces effets s'étendent, et plus évidemment ce phénomène-là, lui, va s'accentuer. Alors la chaleur humide, c'est important parce qu'elle va vraiment, si vous voulez, amplifier ce phénomène. En fait, à partir du moment où on atteint les 30 degrés, l'essentiel de la régulation thermique, c'est-à-dire des mécanismes avec lesquels vous régulez votre température intérieure, la température intérieure est 37, la température à la surface de la peau elle est 35, et si évidemment vous montez à 38, vous n'êtes pas très bien, 39, vous vous alitez, 40, là vous commencez vraiment à vous inquiéter, vous avez raison, et si vous allez un peu au-delà de 40, là enfin vous saurez si Dieu existe. Donc, c'est très important de monter, d'autant que le cerveau supporte beaucoup plus mal, si vous voulez, le réchauffement que le reste. Donc, on se réchauffe grâce à un phénomène physique, et on en bénéficie là, en étant sous cet arbre. En fait, le passage du liquide à l'état gazeux, donc l'évaporation, la transpiration sur la peau, capte des calories et refroidit votre corps. Et en dehors des chevaux, nous sommes les seuls mammifères qui respirent. C'est pour ça que comme les chevaux, on peut courir longtemps. Voilà, mon âge, ça devient plus difficile, mais quand on est plus jeune, on peut courir vraiment très longtemps. Parce qu'on a cette faculté de régulation thermique. Vous avez vu un chien, il tire la langue. Hier, en promenant, j'ai vu un pauvre boxeur dans une espèce de vélo avec une espèce de boîte. La pauvre bête, il n'était pas très chaud, mais on l'entendait halter à 100 mètres. Un chat, c'est pas mieux, c'est les coussinets, c'est moins bruyant, mais c'est, à mon avis, encore moins efficace, etc., etc. Et d'ailleurs, son mort de chaleur humide, de début mai, dans une forêt tropicale du Mexique, à 20 km de la côte, 200, enfin, c'est ce qu'on a repéré, il y en a peut-être plus, mais au moins 200 singes hurleurs. Ils ne transpirent pas. Donc là, lorsque leur organisme monte trop en chaleur, et ça va très vite, ça peut aller jusqu'à 1 degré par heure. Donc de 37 à, je veux dire, en 5 heures, vous êtes mort. Et si vous arrêtez avant, vous aurez quand même des dégâts qui sont non négligeables. Donc c'est ça la question de la chaleur humide, c'est que si vous avez une humidité de l'air vraiment importante, et vous le sentez quand l'air est trop humide, même à 20 degrés, vous avez une sensation de 25. Et puis si, évidemment, alors vous avez 35 degrés avec déjà même à partir de 30-40% d'humidité de l'air, ça, évidemment, le mécanisme qui vous permet de l'évaporation, si l'air est saturé de vapeur, vous ne pouvez plus vous évaporer votre transpiration. Et c'est là qu'effectivement la température interne commence à monter si vous ne pouvez pas vous réfugier dans un endroit plus sec. Et plus frais. Or, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ça s'étend avec une vitesse complètement dingue. Là, très récemment, on a eu en Chine, en Inde, on a eu des épisodes où on commençait à entrer dans la zone rouge. En fait, alors si je prends l'indicateur du thermomètre mouillé, à 30,5, 31 degrés, là, on rentre dans la zone mortelle. Vous avez entendu, quand tu es à la Mecque, là, il y a quelques mois, 1300 personnes sont mortes. Alors, c'est 1300 sur des centaines de milliers, c'est très, très peu. Mais là, elles sont mortes avec, en termes de thermomètre mouillé, on était à 28 degrés. Donc, faites attention, quand vous avez un seuil, c'est quelqu'un de jeune, de bien portant. Puis que moi, vous avez des cheveux blancs, attention les amis, ça va être bien en dessous, Et un nourrisson, c'est pareil. Donc là, vous regardez la Chine, tout le piémont himalayen, les côtes, c'est vraiment la chaleur humide. Si vous avez lu le roman de Stanley Robinson, j'espère que je n'écorche pas son nom, le ministère du futur, je crois, ou de l'intérieur, je ne sais plus. Lui, il part d'un, c'est le premier chapitre du livre, c'est un épisode de chaleur avec une composante chaleur humide en Inde qui fait, en un seul épisode, 20 millions de morts. On va dire, ils se foutent de notre gueule. Ah non, malheureusement, non, je peux vous dire vraiment pas. Là, moi, je m'occupe de ces questions-là avec un petit groupe à l'UNESCO. On auditionne beaucoup de grands chercheurs. Non, et effectivement, l'Inde, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, ça va être un sujet extrêmement important pour ce pays. Mais vous pouvez avoir des problèmes de chaleur humide en France. Vous n'aurez pas les mêmes, pas la même intensité, mais vous les aurez quand il y a 2-3 ans, il y a un jeune vendangeur qui est mort en... du côté de Reims, c'est très probablement un phénomène de chaleur humide. Donc, voilà.
Et puis, on a des lieux de refuge, alors qu'il y a certaines populations qui n'ont pas de lieu de refuge parce qu'elles n'existent pas dans les infrastructures urbaines et autres.
Ah bah oui, vous avez en Inde, c'est des dizaines, des centaines de millions de gens qui ont comme refuge une cabane en tôle. Donc là, franchement, pour la chaleur à tout court et la chaleur humide, c'est pas génial.
Alors peut-être qu'on peut amener le troisième moment avant de parler justement et de mêler transition énergétique, sécurité alimentaire, enfin tous ces sujets, puisque là on parle du diagnostic, on parle de comment on le subit et comment on va le subir, et peut-être maintenant parler de l'agir. Faut-il une feuille de route universelle ? Faut-il une responsabilisation des haut-parleurs, des médias, par exemple, qui gèrent parfois l'annonce, mais ça reste sans suite sur le développement du sujet ? Faut-il réinventer le mot vous appartient, la spiritualité, un mot que vous employez souvent, c'est-à-dire peut-être aussi le consommer n'est plus une chose cool. On regarde un arbre et je cite un exemple que vous, en regardant un arbre, on ne pense plus à des planches qu'on pourrait exploiter, mais on pense à un maillon de ce qui permet de vivre sur Terre. Le gain n'est plus une fin en soi. Voilà, comment redéfinir, comment agir, comment redéfinir peut-être le bien commun et mêler effectivement, voilà, le subir, vous l'avez décrit, comment agir et avec quel sujet pour converger vers une feuille de route universelle avant de parler de notre action individuelle, etc., qu'on traitera plus tard.
Alors, on va commencer par le côté universel. Tous les grands problèmes écologiques sont des problèmes universels. Évidemment, le climat, par exemple, l'air est brassé en 3 semaines. Hein, l'atmosphère est brassée en 3 semaines. Donc, vous prenez l'Afrique aujourd'hui, elle morfle vraiment par rapport au dérèglement climatique. Elle est responsable de pratiquement rien du tout en termes d'émissions. Donc, ils subissent des actions qu'ils n'ont pas commises, dont ils n'ont jamais bénéficié. Sympathique. Donc ça, c'est une composante très importante. La biodiversité, c'est pareil. C'est un peu plus compliqué, mais en fait, les 2 600 000 ans qui nous ont précédés, on a cessé d'osciller entre des périodes glaciaires plutôt longues, en gros 80 000 ans, des interglaciaires, à part quelques exceptions, plutôt de 20 000 ans. Et pendant les 80 000 ans, eh bien, toute la vie se réfugiait entre les tropiques. Et donc, en fait, la biodiversité sur Terre, c'est le même vivant, hein, et avec un brassard important. Donc, même s'il pouvait avoir des îlots de résistance, la question du vivant est quand même, elle aussi, une question universelle. Si vous prenez la question, puis on va y venir avec la transition énergétique, si vous prenez la question des minéraux, sans lesquels on ne peut pas exploiter bien grand-chose, c'est pareil, c'est aussi une question universelle. Donc, encore une fois, on ne peut pas se replier à l'île Dieu. D'ailleurs, l'île sans le continent, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, c'est déjà mal parti. Puis, à mon avis, on fait tous le marché. Mais, enfin, quand même, il y a beaucoup d'autres choses que vous allez acheter au Super U. Hein. Donc, là, c'est un aspect très important. Très rapidement, sur la question de la transition énergétique, c'est pas bien compris cette histoire, mais il faut vraiment partir de ce que c'est que l'énergie. C'est, l'énergie, elle est constante dans l'univers. Hein. C'est le premier principe de la thermodynamique. Hein, quand TDF vous dit « nous produisons de l'énergie », non, c'est une métaphore. Les hommes ne savent pas produire de l'énergie. Alors Dieu merci, ils font déjà assez de conneries comme ça. Non, ce qu'on sait faire, nous, c'est la capter, c'est la transporter et la transformer. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il faut pour la capter, la transporter, la transformer ? Déjà de l'énergie. Donc l'énergie, c'est un ratio entre l'énergie qu'on utilise et puis pour en produire plus que ce qu'on utilise. Sinon, effectivement, c'est assez raté. Et à ça, vous ajoutez les matériaux. Et là, vous voyez bien le piège des questions, des questions techniques. Là, on a mis dans la tête des gens, OK, il n'y a aucun problème, vous allez voir, on va... Parce qu'en gros, la transition énergétique, ça consiste à substituer de l'électricité sous forme directe, indirecte avec l'hydrogène, mais bon, à nos anciens usages fossiles. Or, pour capter, transporter, transformer, vous avez besoin de ce qu'on appelle des convertisseurs. Une ampoule, c'est un convertisseur. Un moteur, c'est un convertisseur. Une ligne haute tension, c'est un convertisseur. Les métaux dont on a besoin dans les turbines, dans plein d'appareils, etc., ce sont beaucoup de métaux semi-précieux. D'ailleurs, on ne peut même pas aller les chercher pour eux-mêmes. Souvent, ce sont des coproduits de l'extraction d'autres métaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la transition énergétique? Si on dit aux gens, effectivement, il n'y a pas de problème, vous vendez votre bagnole thermique, vous rachetez une bagnole électrique, d'ailleurs, vous en rachetez trois, puisque vous aviez trois thermiques, et vous continuez comme ça. Non, ça, c'est débile. Je suis désolé de vous le dire, mais en fait, là, vous avez substitué à du carbone des métaux. Or, l'extraction des métaux, c'est une des choses les plus destructrices sur Terre. La moindre mine, c'est au moins 10 km², quand ce n'est pas 50, pour entreposer les broyats. Vous avez du cyanure, etc. Et c'est mélangé avec de l'eau. Donc, vous pétez tout avec ça. En plus, vous prenez simplement le cuivre. Le cuivre, pour l'électricité, c'est vraiment important. Dans une petite voiture thermique, vous avez 20 kg de cuivre. Une petite électrique... Alors déjà, une hybride, vous en avez 40. Une petite électrique, vous en avez 80. Et si vous avez une grosse Tesla, c'est 280. Donc, et le cuivre, on va le chercher aujourd'hui avec un taux de concentration du métal dans le minerai de 0,4%. Donc vous imaginez la quantité que vous devez excaver, aller de plus en plus profond, extraire de plus en plus de quantité pour faire ça. Alors si vous pensez que la transition énergétique, ok, c'est bien, on électrifie tout, on ne change rien, ça ne marche pas. Et vous voyez bien que tout est interdépendant. Vous voulez baisser le flux de carbone, vous augmentez les flux de métaux. Et pour l'heure, avec des flux de carbone en plus. C'est un paradoxe total. Donc non, et c'est pas très agréable à entendre, j'en suis vraiment désolé, mais la réponse, c'est la sobriété. Alors la sobriété, c'est pas la 16. Je suis pas en train de vous dire qu'on va devoir sucer nos doigts. Mais alors franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins consommé et plus intelligemment, bien faire le choix de ce qu'on doit acquérir, comment on doit le fabriquer pour que ça dure le plus longtemps possible, éventuellement que ce soit modulaire pour intégrer des progrès. Enfin voilà, il y a tout ce programme-là, mais si vous voulez, l'enseignement de ce qu'on appelle les limites planétaires, il faut que l'humanité fasse baisser tous ses flux, la démographie, ça se fait tout seul, et puis évidemment les flux d'énergie, les flux de matière. Et dans un contexte de restauration, et beaucoup plus souvent, de réensauvagement des écosystèmes. C'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir continuer à vivre sur cette terre. Et ça, c'est pas facilement entendable. En fait, du NFP jusqu'au Rassemblement National, quand vous dites ça, vous êtes politiquement mort. Moi, j'ai essayé de survivre. Ça n'a duré que quelques jours. Donc voilà, ça, si vous voulez, c'est la difficulté. Voilà.
Alors est-ce que ça veut dire, par exemple, vous disiez qu'on est apte à prendre des très mauvaises décisions, et on l'a vu puisqu'on en est là. On est
très doué pour ça.
Voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut renforcer le législatif et éduquer le bon sens, pour faire simple?
Alors plus que le bon sens c'est très bien, mais le bon sens il est plutôt anthropocentré le nôtre, donc il ne va pas toujours nous être d'une utilité énorme. Non, la première chose c'est l'information, et c'est très mal parti. Le système d'information aujourd'hui il est vraiment effrayant, et pas, évidemment pas qu'en France. Vous regardez ces news 10 minutes, j'ai fait l'expérience, je n'ai jamais été au-delà parce que mon système moral explose. Je voyais quelqu'un avec un couteau entre les dents dans ma cuisine. C'est un fouteur de haine et de désinformation massive. Mais imaginez aujourd'hui que soit arrivé ce matin ce qui est arrivé en 68, c'est-à-dire des chars qui sont rentrés à Prague. À l'époque, que vous ayez été gaulliste, je suis désolé pour les gens jeunes, que vous ayez été gaulliste ou que vous ayez été communiste, il était clair que des chars étaient entrés à Prague, que ces chars étaient russes et qu'ils venaient pour y réprimer un mouvement de renouveau politique en Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque, les deux pays étaient réunis. Personne ne contestait ça. Après, on pouvait l'interpréter différemment. Imaginez aujourd'hui, ce n'est pas des chars, ils ne sont pas russes, de toute façon, ils ne sont pas à Prague. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez discuter? Comment vous voulez vous déterminer? Et quand vous entendez les conneries sur l'environnement, hein, par exemple, je vais prendre deux événements très concrets. L'un, c'est les inondations récurrentes en Picardie, où le président de région de l'endroit, M. Xavier Bertrand, a raconté aux élus, aux citoyens et citoyennes, et ça a très bien marché, que s'ils étaient inondés de manière chronique, c'est parce que pour sauver les grenouilles, les écolos leur empêchaient de curer la rivière. Alors, il faut être con pour le croire, mais ça marche. Faut vous sachiez que 1 degré de chaleur supérieur, c'est théoriquement, c'est en vrai un peu moins, c'est 7% d'humidité en plus. Là, on a en théorie 10% d'humidité en plus. C'est peut-être beaucoup plus important que le fait de ne pas curer. Sans jeu de mots. Et si je regarde ce qui s'est passé à la Bérarde. La Bérarde, c'est carrément, si vous voulez, les pluies intenses ont amené une forme de dérochement qui n'est pas causée là par le pergélisol. C'est des roches qui ne sont pas venues là où elles étaient cimentées par le gel. Mais la pluie hyper intense, si vous voulez, a fait qu'avec l'eau sont venus des rochers de la taille de la table. Ça a complètement détruit le village de la Bérarde. Le maire leur racontait, alors je ne sais plus pourquoi, que c'était encore une fois la faute des écolos qui avaient évité que l'on mette dans des canalisations l'eau, hein, et qu'on dérive par rapport au village. Mais ils rigolent. Vous voyez, mes canalisations, ce qu'elles devraient être, elles ne résisteraient pas. C'est absurde. Donc en fait, l'information juste est capitale. Et la montagne, d'ailleurs, en fait, vous le savez, il y a un dérochement permanent maintenant. La montagne est en train de se refermer. Ça va être très difficile, d'ailleurs, dans la région de Chamonix, à partir du 14 juillet, vous n'avez plus tellement de courses, parce que c'est trop dangereux.
Mais ça renvoie justement à un des sujets sur haut-parleur, c'est l'absence de responsabilité. On a l'impression que tout le monde se renvoie la balle, et que finalement, on omet de nommer le sujet pour cette feuille, pour constituer cette feuille de route universelle, et que donc du coup on est dans des débats de clochers, on est dans des peut-être un manque d'analyse pour créer une sorte de point zéro universel, global, pour se dire voilà, on arrête les querelles, l'état des lieux c'est ce qu'il est, et maintenant on y va et on passe les vitesses. Et on a l'impression qu'en fait on est dans une espèce de gabegie où même l'intelligence parfois est masquée par le débat et par la rivalité.
Alors, pour le mieux, elle est tétanisée, l'intelligence. Mais on va lever un peu le débat, si vous voulez. En fait, revenons à ce qui a fait le cœur de nos sociétés. Pourquoi ça a très bien marché? Pourquoi on a su faire des démocraties qui nous ont permis de nous enrichir en général? Il y a eu un enrichissement en général. C'est pas du tout le souci des civilisations d'avant, l'enrichissement en général. On enrichissait les riches, les pauvres, ils se démerdaient. Donc là, non. À la fin du 19e siècle, on s'est mis en tête qu'une société, et c'est vrai pour tous les pays industriels de l'époque, qui étaient démocratiques, on s'est mis en tête la double orientation suivante. Voilà, ce qu'on doit faire, c'est produire plus de richesses pour un enrichissement général de la société, dont le grand nombre devait profiter. D'où le corollaire, on produit de la richesse, mais on la redistribue. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un consensus en creux. C'était l'orientation, les objectifs majeurs de nos sociétés. Et ça a superbement marché. Même si on avait vraiment vu, nous, que pendant les Trente Glorieuses. Hein. Mais bon, ça a fini par très bien marcher. Et on pouvait décliner à gauche aussi bien qu'à droite cet objectif général. L'enrichissement à droite, on disait, c'est plutôt la libération de l'initiative entrepreneuriale. À gauche, on disait, c'est la rationalisation de la production. Alors, en cas de guerre, c'était plutôt d'ailleurs ce schéma-là qui l'emportait. Dans les autres cas, c'était plutôt l'autre. Et puis, on opposait deux critères, pas faciles de trancher. Je veux dire, c'est vraiment des options philosophiques différentes. Pour les uns, il fallait redistribuer la richesse au prorata du mérite des uns et des autres. C'est plutôt à droite. À gauche, on disait, on va redistribuer la richesse de façon plus égalitaire. C'est deux options morales qui sont différentes. Mais du coup, ça permettait une alternance. Parce qu'à gauche comme à droite, on visait l'enrichissement général, et à gauche comme à droite, on visait quand même une répartition de la richesse. Donc ça permettait une alternance politique. Ben, ce que je vous ai dit, vous voyez bien qu'on ne peut plus avoir comme objectif de maximiser la richesse. On doit au contraire arriver à déterminer un optimum de richesse acceptable au très long cours par le système Terre et par les citoyens. Il faut que ça reste évidemment démocratique. Et puis du coup, ben, l'enrichissement, on va plutôt aller du côté égalitaire, parce que si vous avez des gens qui consomment trop, ben, ils détruisent plus, tout simplement. Hein, si vous regardez, si vous prenez le prisme des émissions de gaz à effet de serre au monde, ben, les 10% les plus riches, c'est entre 37 et 43% des émissions. Les 50% les plus pauvres, c'est 15% des émissions mondiales. Donc notre aptitude à détruire est directement corrélée à notre richesse. Et ça sera le cas tant que ça sera facilement mesuré avec le CO2, tant qu'on aura toujours 80% de notre énergie issue de sources fossiles. Donc il faudrait qu'on arrive, à un consensus en creux qui intègre les enjeux écologiques. Moi, j'ai cru que ça arriverait dans les années 2000. Hein, moi, j'ai participé à la Charte de l'environnement, à sa rédaction, etc. J'ai cru que ça arrivait. Ben, c'est pas tout à fait le cas. Le pauvre Chirac, il a dû faire venir tous ses députés dans son bureau pour arracher une majorité. Et à peine il a passé l'arme à gauche qu'on l'a traité de cinglé. On a dit complètement fou ce type avoir fait sa charte de l'environnement. Donc c'était mal parti. Et aujourd'hui, on voit très bien, et c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai ailleurs. Si vous regardez aux États-Unis, vous avez alors, le gros des républicains, ceux qui sont derrière Trump, l'environnement, ça n'existe pas. Voilà. Et si vous allez du côté de Biden et Kamala Harris, non, l'environnement est un sujet, enfin notamment le climat, est un sujet important, même s'il n'en tire pas encore les conséquences qu'on a vu. En France, c'est à peu près pareil. Et c'est à peu près pareil partout. Donc là, on voit qu'on a vraiment une difficulté. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire du fond des problèmes, pas des réponses qu'on va leur donner. Dans une société démocratique, ça veut simplement dire qu'on organise la diversité au sein d'une société, on l'accepte, on l'organise et on polarise, de telle sorte que politiquement, ça puisse donner droite-gauche pour qu'on puisse décider collectivement des sujets. Mais là, on a besoin de cet arrière-plan. On ne l'a pas. Et on recule même méchamment par rapport à cet arrière-plan. Donc on est vraiment loin du compte. Et vous disiez que il faut accélérer les solutions. Ben, le problème, c'est que pour le moment, c'est des problèmes qui s'accélèrent.
C'est la définition des problèmes. On n'en finit pas de les définir et on oublie, parce que justement, peut-être pour passer aux questions, peut-être c'est justement comment épanouir les idées claires plutôt que de rester infiniment sur la définition du problème, qui est important, évidemment. Et épanouir les idées claires en intégrant des jeunes générations et pas seulement les générations aux manettes aujourd'hui, parce que ça aussi, ça crée un clivage alors que c'est un monde dans lequel ils vont vivre, elles vont vivre, dans lequel on vit nous aussi. Mais voilà, il y a aussi un passage du flambeau, c'est le cas de le dire, pardon, mais c'est important et c'est grâce à des personnes comme vous qu'on peut y arriver. Alors comment agir avec vous ?
Alors déjà, première chose, pour les gens qui ont mon âge ou approchant, je dis oui, c'est la fin du siècle. Non, on risque pour beaucoup d'entre nous de finir nos jours en EHPAD à 50 degrés. C'est pas génial. Donc non, c'est pas qu'un problème de jeunes. Ne croyez pas ça, c'est une illusion totale. Mais effectivement, pour les jeunes, c'est beaucoup plus dur. C'est même hyper angoissant. C'est très angoissant de regarder cette réalité. Alors, dans les questions, j'essaie de vous donner des trucs pour surmonter le moral. Mais c'est vrai qu'on va traverser quand même des décennies qui sont des décennies assez, assez difficiles.
Et comment, enfin, pour parler des plus jeunes générations, mais comment valoriser les métiers, je dirais, plus verts, sachant que ce n'est pas forcément des nouveaux métiers, parce qu'on oppose là aussi souvent le matériel avec le dématériel. Mais vous l'avez expliqué, l'un n'est pas plus vertueux que l'autre. Et voilà, comment aider à penser la suite ?
Bah alors, du coup, puis je terminerai là-dessus avant les questions. C'est revenir sur cette question de spiritualité. Moi, je donne deux sens à ce mot. Le premier sens, c'est très classique. C'est le sens axiologique, si vous voulez. Il n'y a pas de société au sein de laquelle on ne valorise pas un mode d'accomplissement, de réalisation de son humanité. Et c'est très variable. Si vous lisez Homère, la spiritualité d'Achille, c'est de casser la gueule avec Thor sous les murs de Troie. C'est assez basique. On peut espérer mieux. Si vous allez regarder du côté d'Aristote, c'est beaucoup plus sympathique. Réaliser son humanité, c'est développer ce qui est proprement humain en soi. La raison, grâce à l'exercice de la philosophie des sciences, on ne distinguait pas à l'époque, pour la raison spéculative, pour la raison pratique, c'est-à-dire celle liée à l'action, eh bien, c'est participer à la vie de la cité. C'est pas mal, hein. S'il y a des abstentionnistes, écoutez bien. Et puis, troisième chose, c'est mettre en forme sa sensibilité par les arts. N'est-ce pas, Caribou et Guillaume? Mettre en forme sa sensibilité par les arts, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors, si vous êtes amérindien, ça sera plutôt vivre en harmonie avec la forêt, ses esprits, dans le respect, etc. Si vous êtes chrétien, c'est le salut. Plus ou moins peu de choses près, ce sera pareil. Si vous êtes bouddhiste, c'est le nirvana. Si vous êtes sous Staline, stakhanoviste, ben voilà, il va falloir charrier les tonnes de charbon, hein, et en augmenter le rythme. C'est ça la spiritualité. Donc vous avez vu, j'ai donné des exemples où il y a la spiritualité au sens classique, liée au divin, à l'invisible. Et puis vous avez des spiritualités laïques. Et la spiritualité, la nôtre, de contemporain, alors c'est un peu moins vrai, mais c'était très vrai, très fort. Bah, vous l'avez avec le fameux propos du publiciste Jacques Segala. T'as pas ta Rolex à 50 ans, t'as pété ta vie. Donc en fait, c'est le consumérisme. C'est accumuler des objets. Accumuler des objets. Alors en fait, c'est avoir un statut et traduire ce statut par la possession d'un certain nombre d'objets, parfois même de personnes. Eh bien, c'est ça la spiritualité moderne. Évidemment, elle va vraiment avec, si vous voulez, la spiritualité au second sens, c'est-à-dire comment, dans une société, on regarde le donné naturel. Si vous étiez un Romain, eh bien, il y a le génie des lieux partout. Et écoutez, Pline, il se plaint de l'exploitation minière. C'est Pline. On offense la terre. Bon, à partir des modernes, avec l'invention de la science moderne, avec la physique galiléenne, on n'est plus du tout là-dessus. Comme dit Descartes, je crois que c'est dans les principes de la philosophie, la nature, ça n'est pas une déesse. Ça n'est que matière. Ce ne sont que des particules qui s'entrechoquent et dont les chocs permettent la formation des corps physiques. Et donc la nature en soi n'a aucune valeur. En fait, ce qui vaut, c'est la transformation économique, la valorisation économique du donné naturel. Donc vous voyez que les deux spiritualités se tiennent très bien. Pour qu'on se donne comme fin d'exploiter, de transformer le donné naturel, il faut avoir sacrément faim de consommation derrière. Sinon, ça ne marche pas. Donc en fait, ces deux sens du mot spiritualité, ces pôles se nourrissent et constituent l'arcane d'une civilisation. Ça vous montre aussi la difficulté dans laquelle on est. C'est-à-dire que changer le monde, c'est vraiment changer les choses au très fond de soi-même. Et ça va largement au-delà de nos volontés individuelles. Mais on sent, moi je me souviens d'une réunion à laquelle je participais, organisée par Entreprises pour l'environnement. Je vous dis tout de suite, c'est pas une association de gauchistes. Et donc là, je me souviens, c'était fin des années 90, il y avait à l'époque la grande prêtresse des focus group. Elle nous avait dit, à tout ce parterre d'industriels médusés, qu'un pauvre philosophe paumé là-dedans, eh bien que c'était fini. La magie de la consommation était rompue. On continuait à consommer, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, mais j'aurais presque envie de dire par inertie mentale et économique. Mais le feu sacré n'est plus là. Et si j'ai le temps, je vais vous montrer des symptômes du fait qu'on assiste à un changement extrêmement profond du monde autour de nous. Alors, est-ce qu'il va aller assez vite pour nous éviter de tout dézinguer? Moi, ce qui me fait très peur, c'est la biodiversité. Et le climat va suraccélérer l'effondrement des populations. Et donc, si on va trop loin de ce côté-là, ouais, là, ça, c'est très gênant, parce que ça opère là, complètement le futur. Si ce n'est pas le cas, on aura une période très difficile de quelques décennies, puis petit à petit, j'espère qu'on deviendra moins bête, moins destructeur et qu'on arrivera à reconstruire quelque chose.
Mais il faut qu'on le fasse dans un temps record.
Aujourd'hui.
Ça commence maintenant, absolument. Voilà. Alors pour rester dans les temps, parce que sinon on pourrait volontiers étendre à des heures et des jours, mais on va peut-être prendre les questions de l'audience et ça vous permettra sans doute de développer d'autres points. Alors je demande une immense discipline, c'est-à-dire qu'on lève les mains et j'apporte le micro pour qu'on puisse entendre et pour que l'enregistrement soit de bonne qualité, puisque ces questions seront également enregistrées. Alors une première question par ici.
Bonjour. Tout le monde reconnaît évidemment que la température s'élève, ça tout le monde est d'accord. La question, vous avez très bien démontré le rôle de l'homme, mais comme l'homme va mourir, ça va rétablir les choses d'une part, et d'autre part, vous n'avez pas évoqué la responsabilité du monde planétaire. Et je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est par... par dédain sur ce détail, mais toutes les planètes se dilatent et se rétractent. Nous avons 80 volcans qui sont éruptifs, plus les volcans que nous ne voyons pas. Et donc, je me pose la question de savoir si la Terre n'est pas en phase de rétraction, expliquant, parce qu'un volcan ne peut pas jaillir s'il n'y a pas une pression interne qui varie. Et je pense que ces zones-là doivent être explorées. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, oui... Je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre, hein, parce que alors dans l'histoire de la vie, effectivement, les éruptions planétaires ont été très importantes, hein, et à un moment donné, elles ont suscité une concentration gigantesque du CO2 dans l'atmosphère. Donc, alors qu'une éruption classique est isolée, au contraire, avec le soufre, ça va faire l'effet inverse, c'est un refroidissement. Hein, c'est un refroidissement de quelques mois, un an et demi ou plus. Hein. Quand on a eu le Tambora, ça devait être en 1815, il y a eu un refroidissement de la Terre non négligeable. Et indirectement, ça a suscité derrière, parce qu'effectivement, le refroidissement trop rapide des eaux a fait muter les bactéries du choléra. Et ça nous a amené une épidémie, une pandémie de choléra très, 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 très sévère. Bon, là, tout ce qui se passe aujourd'hui est complètement indépendamment de ça, si ce n'est qu'effectivement, la fonte des masses glaciaires à chacun des pôles, eh bien, évidemment, joue sur la tectonique des plaques et pourrait faire repartir, réactiver certaines activités volcaniques. Mais à part ça, j'en sais pas plus, je ne peux pas vous dire plus.
Une autre question ? Oui, monsieur.
Oui, bonjour. Ma question concerne justement les jeunes. Je suis papa de 3 enfants qui ont une vingtaine d'années et à qui j'avais proposé de venir, mais papa, c'est les vacances. Bon, voilà. Hein. Et je comprends que, vous l'avez dit vous-même, c'est très angoissant. Ce que nous, on va finir en EHPAD à 50 degrés, ça ne va pas durer très longtemps, mais eux, ils risquent de souffrir plus longtemps que nous. Donc, ma question concerne comment amener finalement les jeunes à ces sujets-là sans les angoisser.
Alors, moi, c'est le problème que je me suis posé en tant que prof, hein, puisque je devais enseigner ces sujets et j'avais monté un cours qui était ouvert à toutes les autres facultés, puisque comme j'étais dans une faculté de géosciences, voilà, c'était ouvert aux autres facultés. Donc, je voyais débarquer à peu près 150 étudiants, je fais ça un semestre sur deux. Et sur ces 150, ils avaient un degré d'information sur les sujets, alors surtout il y a 10 ans, hein, qui était, et j'ai arrêté ça en 2019, qui était très faible, qui était vraiment très faible. Et donc on voyait l'angoisse, et c'était évident, c'est-à-dire ils découvraient la situation, et c'était très, très vivant. Alors, bon, comment dire, ça serait pire de les maintenir dans l'ignorance. Et là, je ne vous dis pas la colère après. Ce que parfois on fait. Par exemple, le système helvétique d'enseignement roman a tendance à faire ça maintenant. Ce qui est criminel à mes yeux, vraiment. Donc non, il faut bien informer les jeunes. Il faut essayer de le faire avec, comment dire, avec un peu d'humour. Soi-même, il ne faut pas arriver mangé par ses passions tristes. Il faut arriver gai en cours, sortez des horreurs avec le sourire. Alors, ça ne va pas faire disparaître les horreurs, mais ça fait qu'elles sont beaucoup plus facilement digestibles, si j'ose dire. Et puis, ouvrir des perspectives. Et en fait, la meilleure thérapie contre l'angoisse, c'est l'action. Et quand vous fermez ça, vous essayez de ne pas vous informer, c'est tellement diffus dans la société et maintenant les phénomènes sont tellement accessibles à nos sens, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois, que même si vous vous fermez, vous le sentez quelque part. Et je pense que beaucoup de dénis sont, comment dire, enfin beaucoup de refus sont du déni en fait. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment gérer. Mais je vous assure qu'avec beaucoup d'efforts, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Mais bon, moi, ça fait 30 ans, oui, au moins 30 ans que je suis là-dedans, un peu plus. J'ai dû trouver des moyens pour... Parce qu'en fait, en environnement, de manière générale, si vous en écologie, vous avez pratiquement jamais de bonnes nouvelles. Moi, ma carrière, c'est une accumulation de sales coups. Pas mes collègues, hein, ça peut arriver, mais non, là, surtout l'écologie et le monde. Et donc, comment j'encaisse ça sans devenir neurasthénique, voire complètement dépressif? Alors, il y a une hygiène personnelle pour ça, mais c'est vraiment très important. Parce qu'il faut savoir garder tout son esprit, puis il faut vraiment toujours garder une espèce de lumière. Alors, vous pouvez l'avoir de manière plus spirituelle, en un sens assez classique, vous pouvez l'avoir avec une perspective d'action, etc. Mais c'est vraiment très important de maintenir son hygiène mentale quand on travaille dans ce genre de domaine. Parce que c'est vraiment dur. La seule chose que je connais pire, c'est un très bon ami, qui est un très bon historien du nazisme, ça dira peut-être quelque chose à quelqu'un. Alors lui, c'est pire que moi.
Une autre question, alors par ici.
Alors, merci beaucoup. Pour être un peu moins pessimiste, moi je pensais un petit peu à la faculté d'adaptation des hommes dans l'histoire de l'humanité. Comment vous voyez ça par rapport à... Puisque quand on regarde hein, depuis la nuit des temps, il y a eu des déplacements de population liés justement ou à des phénomènes climatiques, etc. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que l'homme a quand même au fond de lui-même une belle capacité d'adaptation?
Alors déjà, quand on regarde le passé, il faut faire très attention parce que si vous voulez, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est le principal problème, non seulement du dérèglement climatique, mais des autres difficultés, c'est l'accélération. L'accélération de nos émissions. Moi, je suis né au début des années 50, je crois qu'on devait être à 310, un truc comme ça, ppm. Bon, et donc en cette décennie, on est sorti complètement, si vous voulez, du scope géologique, si on peut dire. Donc les phénomènes sont très très rapides. Et alors on le voit aujourd'hui, depuis 2018, avec l'expression. Donc en fait, jamais les êtres humains n'ont eu à vivre ça. Jamais. Quand vous avez eu, même quand on parle du petit âge glaciaire, le petit âge glaciaire... En Europe, c'est un degré de moins en température moyenne. Hein. C'est des récoltes qui s'effondrent, etc. Et vous avez la peste noire qui arrive en 1347-1349 qui fait disparaître deux tiers dans les villes, un tiers de la population dans les campagnes. Alors pourquoi elle était aussi ravageuse, cette peste noire? C'est parce qu'elle affecte des populations qui sont dénutries. Hein. Mais en fait, c'était très progressif. Et la mémoire humaine est ainsi faite qu'on oublie, si vous voulez, le monde, c'est ce qu'on a connu dans son enfance. Et donc là, on avait des générations qui duraient à peu près une trentaine d'années. Donc en fait, tous les cataclysmes de la Terre, la plupart des hommes ne les ont jamais vus. Donc quand vous parlez de faculté d'adaptation des êtres humains, vous ne devez jamais oublier que la vitesse n'a vraiment rien à voir. Oui, bien sûr, on a une capacité d'adaptation, Dieu merci. Mais la capacité d'adaptation, elle se fait dans un scope. Je peux effectivement m'adapter. Si vous voulez, 50 degrés, c'est 3 litres d'eau par heure. Ok, on peut s'adapter. Mais si vous avez 50 degrés pendant plusieurs journées avec une température qui ne va pas descendre en dessous des 29 la nuit, vous mourrez. Votre organisme, il s'épuise. Donc l'adaptation, oui, c'est une chose, mais il faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. C'est-à-dire qu'on peut s'adapter, mais dans des marges. Donc là, notre adaptation, elle va être de se réfugier dans les endroits sur Terre qui sont les plus habitables. Ça va être ça, l'essentiel de l'adaptation, avec d'autres aspects.
Alors, une question, plusieurs questions, mais on va procéder dans l'ordre.
Oui, bonjour. Vous avez mentionné un certain nombre de philosophies dans l'histoire des hommes. La philosophie très très ancienne, assez rudimentaire. Ensuite Aristote, j'ai cru pour vous c'était quand même un maximum. Et puis ensuite
c'était très beau.
C'était très beau. Pourquoi vous suivez pas Aristote jusqu'au bout? Parce que Aristote, il demande, il dit que l'humanité se perfectionne quand elle cherche la cause universelle de l'être. Et la cause universelle de l'être, ça s'appelle Dieu. Alors, oui. Je voudrais savoir comment, pour quelle raison vous avez limité à Aristote à ce qu'il dit lui-même de plus basique.
Ah, il dit même plus que ça, a été qu'il a réussi à contempler Dieu deux fois dans sa vie. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais pas à moi. Donc, oui, on peut aller très loin, si vous voulez, mais Dieu chez les anciens, ça n'a, et surtout chez Aristote, ça n'a vraiment rien à voir avec le Dieu auquel vous pensez, vous, avec sans doute une formation plutôt chrétienne. Le Dieu d'Aristote, c'est le premier moteur immobile. Bon, aimer le premier moteur immobile, ah si, je dis, il n'y a pas de problème. Et c'est la raison, mais une raison, si vous voulez, très abstraite, en dehors du temps, etc. Donc le Dieu d'Aristote, ça n'a rien à voir avec un Dieu qui intervient dans la vie humaine. Et les anciens divisaient le monde entre le monde sublunaire, qui était lié à la contingence, qui connaissait une certaine forme de désordre, et puis le monde céleste, au sein duquel il n'y avait pas de matière, tout est incorruptible, tout est éternel, et le seul mouvement qui peut exister, c'est le cercle, le mouvement circulaire, parce qu'il est identique à lui-même. Alors, franchement, ok, s'identifier au dieu d'Aristote, je veux bien, mais ça, pour nous, ça risque d'être encore beaucoup plus ennuyeux que le paradis chez Dante. Hein. Mais bon, peu importe. Effectivement, les spiritualités, que ce soit celle-ci ou d'autres, mais celle-ci est plus du tout, si vous voulez, cette idée de monde sublunaire et de monde céleste, hein, absolument plus aucun sens pour nous. Alors après, peu importe, vous pouvez avoir dans l'assemblée des spiritualités très différentes. Et effectivement, là où ces spiritualités peuvent devenir dangereuses, c'est si vous pensez que quelles que soient les bêtises que vont faire les hommes, Dieu vous sauvera. Sur terre, j'entends. Si vous sauve là-haut, c'est plus mon problème. Mais si vous sauve ici, alors là, ça c'est une croyance qui peut être extrêmement dangereuse. Et on le voit aujourd'hui avec les évangéliques américains. Hein, le climato-scepticisme des évangéliques américains, il est lié à leurs croyances religieuses qui pour moi sont hyper dangereuses. D'ailleurs, elles les amènent à voter pour Trump ou voter pour Bolsonaro. Déjà pour moi, ça suffirait pour les disqualifier.
Oui, merci. Oui, moi j'avais une question. Vous avez dit que une des difficultés, c'était que tout notre système économique des dernières années est basé sur une augmentation de la richesse avec différentes options de répartition et qu'il faudrait aller vers une sobriété. J'aurais voulu savoir quels étaient vos échanges avec les économistes, parce que je les trouve bien silencieux sur cette question de comment on invente ce monde économique de la sobriété. Et une autre chose qui est liée, enfin qui est une sous-question dans ma question, je ne sais plus qui a dit il n'y a pas longtemps, on n'a plus le temps de trouver une alternative au capitalisme dans l'urgence qui est la nôtre. Donc qu'est-ce qui, dans notre système capitaliste aujourd'hui, permettrait en effet d'aller vers cette sobriété ou cette décroissance? Je ne sais pas si vous considérez que c'est la même chose ou pas. Merci.
Alors oui, c'est au bout du compte, c'est une certaine forme de décroissance. Hein. Je crois que c'est, en tout cas, décroissance des flux de matière et des flux d'énergie, oui. Décroissance démographique, oui. Alors après, ça implique forcément aussi une décroissance des flux monétaires, mais vous pouvez amoindrir le choc par les bons choix. Alors, pour répondre sur les économies, ben, ça dépend de quels économistes on a affaire. Hein. Je vous redis ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les économistes mainstream, oui, d'ailleurs, il y a quelque temps, une enquête était parue nous disant que le nombre de papiers dans les grandes revues économiques internationales concernant le climat, c'était 0,0 je sais plus quoi. Enfin, c'était vraiment infime. Donc, en fait, ils s'intéressent à leur monde propre, pas trop à ce qui les entoure. Là, on a un vrai problème. Maintenant, depuis les années 70, c'est créé ce courant écologico-économique avec une grande revue, etc. Et puis, dans la jeune génération économiste, vous avez beaucoup de gens très doués, ils vont plus vers l'économie mainstream. Ça leur paraît absurde. Et ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser justement à cette économie écologique. Mais on n'a pas, si vous voulez, aujourd'hui, enfin, moi, je ne connais pas une vision, j'entends vraiment économique, hein, générale, qui nous permettrait de comprendre comment on peut bien vivre dans une société démocratique qui soit en même temps sobre. On n'a pas encore trouvé la recette. Hein, je crois que la chose est claire. Et probablement, on va tâtonner beaucoup avant d'y parvenir. Mais en tout cas, chez la partie la plus jeune des chercheurs, c'est vraiment l'orientation qui commence à s'imposer. Alors après, sur la question du capitalisme, oui, en plus le capitalisme c'est un système international, quand bien même on en sortirait d'un pays, en évitant l'Albanie, ça changerait pas grand-chose. Les grands flux sont des flux internationaux. Donc il finira par mourir, mais le problème dans un premier temps, si effectivement vous posez comme préalable de devoir sortir du capitalisme, ça va être difficile. La seule voie raisonnable possible, c'est une régulation qui petit à petit peut devenir totalement contradictoire avec certains ressorts du capitalisme. Le capitalisme, c'est l'augmentation indéfinie des flux monétaires, ça implique nécessairement une augmentation des flux de matière, des flux d'énergie. Donc ça, c'est totalement incompatible avec le monde tel qu'on le connaît. Mais ça, c'est un objectif plus lointain. Comment, en régulant, on peut essayer de desserrer l'étau qui est en train de nous faire mourir et le reste du vivant avec? Comment on peut le desserrer le plus rapidement possible sans s'effondrer? C'est déjà pas simple. Et donc, oui, le capitalisme, on garde ça comme raison, bien sûr. Mais si on veut que ce soit fait, ça n'a pas de sens, en premier lieu.
Alors, une question. Hop.
Vous avez présenté la sobriété comme la voie nécessaire. Et on pourrait comprendre unique. Et vous avez en même temps fait un procès. Vous avez condamné ce que la technologie pouvait apporter. Or, le passage par la sobriété, malheureusement, il y a beaucoup d'inertie dans ce qui existe. Prenez le logement, vous ne modifiez pas un parc de logements comme ça. Et si quelqu'un crève de chaleur dans son HLM exposé à l'ouest, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. On pourrait ajouter aussi que la sobriété vue par un Africain n'est peut-être pas celle que nous voyons. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se passer d'une réflexion sur les apports de la technologie ?
Ah, surtout pas. Alors, je me suis mal fait comprendre, hein, vous avez entendu ça dans mon discours. Non, j'ai dit que dans le référentiel de la pensée écologique, il y avait une critique sur la capacité des techniques à résoudre tous les problèmes qu'elles avaient contribué à susciter. Mais ce n'est pas du Jacques Ellul. Au contraire, aujourd'hui, vous avez des réflexions très différentes. Alors, vous avez des réflexions sur les low-tech. Moi, pour ma part, l'avenir, je pense que c'est un mélange de high et de low-tech. Vous avez des réflexions qui sont plus profondes. Par exemple, je pense à celle du biologiste Olivier Hamant, qui réfléchit sur la façon dont la nature elle-même produit ces organismes. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, la nature, ce qu'elle recherche en permanence, c'est la robustesse. On va prendre par exemple la photosynthèse. Bon, c'est 1% de rendement en général. Donc, n'importe quel ingénieur dit, mais la nature, qu'est-ce qu'elle est nulle, quoi. 1%, c'est vraiment minable. Bon, moindre moteur thermique, c'est au moins 15 ou 20, je ne sais plus. Mais bon, et il lui dit, ben non, parce que ça fait que ça marche tout le temps et en permanence. On pourrait très bien avoir un rendement bien supérieur, mais ça ne marcherait que lorsque tous les photons sont alignés. Donc, on aurait de la photosynthèse quelques secondes dans la journée et encore peut-être des millisecondes, j'en sais rien. Donc, non. Alors, ça ne veut pas dire que la nature n'est pas non plus des fois des performances, hein. Vous prenez par exemple un manchot qui va rester toute la journée avec ses palmes sur la glace. Bah, il a un système de vascularisation dans le genou qui lui permet de tenir et les palmes ne vont pas. Mais de manière générale, la nature est plutôt sur la robustesse. Et puis, on a d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, nos manières de faire, et c'est une énigme, nous sommes des êtres naturels, la nature nous a engendrés, comment se fait-il qu'à la différence des autres espèces, nous, tout ce qu'on fait, ça pète tout? Je vais prendre un exemple. Quand nous autres, en s'appuyant sur Lavoisier, on va faire des macromolécules, ben elles sont très différentes des macromolécules que les organismes produisent. Mais celles produites par les organismes, elles sont métastables. Dès que l'organisme a disparu, les macromolécules, elles reviennent à leurs éléments, elles repartent dans le cycle de la nature. Or, nous, non, c'est les plastiques qu'on va trouver dans les océans, qu'on va trouver partout. Hein, elles se fragmentent, mais elles ne rentrent pas dans le métabolisme général, et donc elles s'accumulent avec des effets extrêmement délétères sur les milieux et sur les corps vivants qui habitent dans ces milieux. Chacun de nous, d'ailleurs, on ingère l'équivalent en grammes d'une carte bancaire, et c'est un Suisse qui vous dit ça, hein, une carte bancaire par semaine. Donc, justement, on n'est plus Ellul. Il faut qu'on réfléchisse à quelque chose de beaucoup plus complexe. On va jouer sur des palettes techniques. On va essayer de repenser de manière plus fondamentale, peut-être, nos agir techniques. En fait, si on sait réagir suffisamment tôt. Moi, je suis très optimiste sur le long cours de l'humanité. Là, ce qui m'inquiète, c'est la passe dans laquelle on entre. Et c'est que en quelque sorte, on n'y stationne pas, parce que là, si on le fait, on va détruire beaucoup trop le vivant sur Terre. Et là, à l'enfance, là, ça préempterait totalement toute forme d'avenir, quoi. En tout cas, humain. Hein. Donc, c'est ça le sujet. Mais on a devant nous, si vous voulez, un avenir d'inventivité. On va devoir en partie tout réinventer. Et donc, si on le voit comme ça, il n'y a pas de quoi s'angoisser. Mais en même temps, il ne faut pas être niais. Il faut savoir que ça va tabasser et qu'il va falloir inventer sous tabassage, dans des conditions difficiles, et qu'il va déjà falloir s'entendre et pas s'entre-déchirer pour ne pas dire plus. Il y a déjà des défis qui sont énormes. Hein.
Alors, il y avait une question par ici, oui, là-bas, et puis après, j'ai vu qu'il y avait des questions par là.
Merci. Je voudrais savoir comment vous conjuguez démographie et habitabilité. Je pense à l'Afrique. Vous avez dit il vaut morfler. Je pense que c'est déjà vrai. Et comment ce boom démographique que nous connaissons tous pour l'Afrique, 2 milliards en 2050, avec l'habitabilité de leurs terres, comment le conjuguer et qu'est-ce que ce déclin démographique ?
Alors, vous avez raison, c'est la seule région du monde où on a encore massivement un taux de fécondité positif. Et effectivement, les 2 milliards d'êtres humains qu'on attend en théorie d'ici au milieu du siècle, ça sera en Afrique, et d'ailleurs plutôt l'Afrique francophone. Et les couches les plus pauvres. C'est-à-dire que si on avait des politiques de répartition de la richesse, on pourrait faire que ces 2 milliards d'êtres humains ne naissent pas en totalité. Alors après, là, de toute façon, si vous voulez, les mouvements de population, on n'y échappera pas. Alors, il y a des gens qui vont, si vous voulez, ne pas vouloir bouger, qui petit à petit se retrouveront dans des conditions où ils vont probablement, c'est horrible de dire ça, mais pour une partie, mourir sur place. Vous aurez des mouvements à l'intérieur d'un continent. Et puis vous aurez des mouvements transcontinentaux, mais évidemment, nécessairement. Avec, alors, en plus, en dehors de la, si vous voulez, de l'altération de l'habitabilité pour les questions de chaleur que j'indiquais tout à l'heure, vous avez aussi l'élévation du niveau des mers, et on se rend compte que, on sera à plus d'un mètre à la fin du siècle. Maintenant, c'est quasi acquis parce que en Antarctique, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, Groenland aussi. Enfin bon, peu importe, on verra le 7e rapport du GIEC qui nous racontera là-dessus. Mais donc, on aura aussi une migration côtière. Mais alors celle-là, elle peut simplement aller dans l'intérieur du pays. Ben, à la fin du siècle, cette île n'aura plus la physionomie qu'elle a aujourd'hui. Ça, c'est une certitude.